Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce mercredi 8 mai. Voici les titres. Célébration ce 8 mai de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans ce journal, nous verrons les actions de cette organisation à Gaïa pour les communautés de Tanda touchées par des inondations. Nous irons ensuite dans la ville de Tillabéri à la découverte d'une école primaire qui accueille des élèves déplacés. Le magazine du jour met l'accent sur les actions de l'International Rescue Committee de la région de Diffa basée sur les principes humanitaires. Je suis Nafisa Adam Surfo au micro. Aujourd'hui, 8 mai, le monde commémore l'action humanitaire à travers la journée dédiée à la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Cette journée est l'occasion d'honorer l'héritage d'Henri Dunant, le volontaire pionnier qui a fondé le mouvement international il y a plus de 160 ans. Il est fondé sur les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité et d'universalité. À Gaïa, le CICR est présent aux côtés des communautés de Tanda durement touché par des inondations il y a quelques années. Écoutons les précisions avec Issoufou Tahirou, volontaire de la Croix-Rouge, interrogé par Fadel Alou.
La Croix-Rouge ici, c'est un organisme humanitaire qui s'occupe en général de tout ce qui est humanitaire. Il vient en aide aux populations sinistrées dans le cas de catastrophes, le cas de conflits armés le plus souvent. Mais ici à Gaïa, la Croix-Rouge a intervenu le plus dans la commune de Tanda. Où dans les années 2018, il y a eu à faire une digue de protection des villages de Omboitunga, Darftunga et Runtua Tanda. Donc grâce à l'intervention de la Croix-Rouge, ces villages aujourd'hui sont protégés des inondations. La commune de Gaïa aussi a profité avec les inondations de 2020, plus souvent les villages riverains du fleuve, où il y a eu plus de catastrophes d'inondations, qui ont bénéficié de l'aide de la Croix-Rouge.
Et cette brève, 7,5 millions de personnes du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont en insécurité alimentaire sévère, a alerté hier l'ONG américaine de défense des droits humains International Rescue Committee. L'ampleur de l'insécurité alimentaire sévère et de la malnutrition qui est liée continue de s'intensifier dans la région. Une augmentation par rapport aux chiffres de l'année dernière où 5,4 millions de personnes étaient dans cette situation, a précisé la même source. L'école primaire Banizumbu traditionnelle de la ville de Tillabéri accueille des élèves déplacés. En effet, de nombreuses familles ont été contraintes d'abandonner leur habitation suite à des attaques armées dans la région. Pour continuer leur cursus scolaire, les autorités ont créé les conditions pour qu'ils puissent intégrer les écoles dans leur zone d'accueil. Pour plus de détails, écoutons Mme Touré Kadidja, directrice de l'école Banizumbu, au micro de notre envoyé spécial à la Minouachar.
Actuellement, j'ai 78 enfants déplacés internes dans mon école, dont 36 filles. Donc, du CIU au CM2, j'ai des enfants déplacés jusqu'au jardin d'enfants même. Donc, les enfants, là, quand ils viennent, parfois, ils sont dépaysés même. C'est des enfants qui viennent généralement sans papier. Ils n'ont pas de papier. Parfois, même si le parent me dit, il a fait ce, je suis obligé de faire un petit test. Si ça ne va pas, donc, l'enfant, je peux le faire retourner au CIU au CP. Quand les enfants, là, viennent dans nos écoles, on a besoin de matériel. C'est un surplus pour nous. Parfois, on est obligé de sensibiliser le parent même de l'enfant. On est obligé de sensibiliser les élèves autochtones pour qu'ils acceptent ces enfants-là, pour qu'ils se sentent à l'aise même, pour qu'ils puissent apprendre avec leur père.
Au Niger, la mendicité a pris aujourd'hui des proportions inquiétantes dans les grandes villes, une pratique transportée même hors de nos frontières. Dans la commune urbaine d'Agadez, pour lutter contre ce phénomène, la cellule de prévention de la radicalisation a mis en place un premier comité régional. Oustaz Halidou Yahya, membre de la dite structure, donne des précisions au micro de Anissé Karim.
Nos compatriotes ont exporté la mendicité et ça a fait des mauvais échos sur les ondes des médias. C'est pourquoi nous sommes venus ici porteurs d'un programme envie de proposer aux communautés, d'abord à la région d'Agadez, un programme de mobilisation communautaire qui va regrouper tous les groupes sociaux afin de faire face à ce phénomène de mendicité, créer un bureau régional communautaire à Agadez, et c'est le premier bureau créé au niveau national, avant de continuer sur les autres régions. Et ce bureau va s'en charger localement. Ils vont s'asseoir, élaborer un grand programme, trouver des voies et moyens de financement interne d'activités, et au-delà de la mendicité, faire face à tous les fléaux qui bravent notre pays en général et nos régions respectives en particulier.
Autre aspect de ce journal, la direction de la météorologie nationale a organisé une conférence de presse ce matin à Niamey pour annoncer les prévisions pluviométriques pour la saison 2024. Selon le prévisionniste, pour l'heure, on enregistre quelques précipitations dans certaines régions du pays, mais l'installation de la saison pluvieuse ne pourra s'observer qu'à la mi-juin. Suivons les explications de Ousmane Bawa, ingénieur de la météo, au micro de Maremade.
La pluie d'avant-hier ne signifie pas l'installation effective de la saison des pluies. Mais ça arrive pendant le mois d'avril, pendant le mois de mai, surtout le mois de mai, où nous pouvons enregistrer quelques précipitations, même pas sur Niamey. Sur les régions du fleuve, sur le sud de la région d'Ottawa, également sud des Andes, sud de Maradi, on peut avoir toujours la pluie de l'après-midi, parce que c'est une période qu'on appelle de fluctuation de la mousson humide. Et pour avoir la pluie ici au Sahel, il nous faut obligatoirement de l'humidité. Et avant-hier, il y avait un taux d'humidité assez élevé. Donc, en présence de la forte insolation que nous avons sur le Niger à Paris, moment 45, 46 degrés Celsius, il y a eu des bourgeonnements, il y a eu des formations nuageuses, il y a eu des orages. Mais d'après la climatologie de la partie ouest du Niger, c'est-à-dire de ce Niamey, Tillabéri, voire même Tawa, la saison s'installe véritablement au cours du mois de juin.
L'actualité en région, depuis quelque temps, la ville de Guingimi est confrontée à un problème récurrent d'approvisionnement en eau potable. Dans certains quartiers, les consommateurs font des jours sans une goutte d'eau au robinet. C'est ce qu'expliquent ces habitants qui lancent également leur cri de cœur. On les écoute au micro de Mena Abdoulaye.
Nous souffrons beaucoup. Jour et nuit, nous sommes à la recherche de l'eau avec nos enfants. Dès l'aube, après la prière, les hommes sortent pour chercher de l'eau.
À l'est de la ville, les quartiers de Ningimi, tels que les quartiers Cameroun, les quartiers Kanimburi, ont un problème énorme d'eau potable. Là-bas, les tuyaux n'ont pas été changés. C'est les installations des années 1900, ce qui fait en sorte que la production est très faible, ce qui fait en sorte que la population fait des jours au jour sans pour autant même voir une goutte d'eau potable au niveau de leur robinet.
Le quartier dispose de 13 forages, mais aucun ne marche à ce jour. Nous sommes obligés de nous déplacer dans les autres quartiers pour chercher de l'eau. Là aussi, il nous faut faire la queue. Nous lançons un cri de cœur aux autorités de nous venir en aide dans un bref délai.
En bref, face à la flambée des prix des denrées alimentaires, le gouvernement béninois a décidé la semaine dernière d'interdire l'exportation de ses produits vers les marchés extérieurs dans ses pays voisins. Cette mesure a eu un impact direct sur l'arrivée des produits à Gaya, ont rapporté des commerçants. En réponse à cette disposition des autorités béninoises, les produits frais comme l'ananas, l'igname, la tomate fraîche importée du Bénin font l'objet d'interceptions systématiques par les forces de défense et de sécurité à Gaya. Également, les camions transportant ces produits en direction des autres villes du Niger sont conjurés à rebrousser chemin, rapporte à certains transporteurs locaux rencontrés par notre correspondant à Gaya. Cette année, la compagnie de transport Niger Airlines a été retenue pour le convoyage des pèlerins nigériens pour le Hajj 2024. Elle va acheminer environ 6 000 pèlerins en vol charter. Pour rappel, 10 381 pèlerins nigériens sont déjà enregistrés pour le Hajj 2024, selon le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, Koho. Suivons les explications de Djibrima Ali Boukar, chef cellule communication du Koho, au micro de Rafika Taher.
Le Koho avait lancé un appel à candidature pour la sélection des compagnies aériennes chargées de convoyer nos pèlerins pour le Hajj de cette année. Et ce, vraiment conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les compagnies qui desservent le Niger ont été invitées à soumissionner. Trois compagnies ont été retenues, à savoir Turkish, Ethiopian, Niger Airlines avec son partenaire saoudien. Chemin faisant, les deux premières compagnies ont désisté. C'est ainsi que Max Air, qui est quatrième sur la liste, a été repêché. Cependant, nous sommes en phase terminale de l'organisation du Hajj. Naturellement, on a constaté un peu de lenteur sur les tractations de Max Air. Face à cette situation, il a été décidé d'octroyer la totalité du quota à Niger Airlines. Et Inch'Allah, selon le programme que la compagnie Niger Airlines nous a transmis, le premier vol aura lieu, Inch'Allah, le 22 mai 2024.
Le ministre tchadien des armées, Dago Yacoub, est en visite au Niger. Il a été reçu hier par le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen avec au centre des échanges la sécurité aux frontières des deux pays. Par ailleurs, le ministre tchadien a rappelé qu'ils ont des camarades et des frères tchadiens au Niger qui, grâce à l'aide du Niger, peuvent rentrer chez eux. Nous sommes venus les accueillir et les amener au Tchad, a indiqué Dago Yacoub. Le magazine de ce journal de la région de Diffa, certaines localités sont fragilisées par la situation sécuritaire. Pour soutenir ces populations, un certain nombre d'organisations interviennent sur place avec l'aval des autorités. L'IRC, l'International Rescue Committee, fait partie de ces organisations humanitaires qui mènent des actions basées sur les principes humanitaires. Suivons le reportage de Maine Abdoulaye.
Au cœur du défi humanitaire du Niger, la région de Diffa est marquée par des conflits, le déplacement des populations et l'insécurité. Malgré ces difficultés, plusieurs organisations mènent des activités dans cette partie du Niger en collaboration avec les populations et les autorités locales. L'IRC est l'une de ces organisations qui intervient dans la région de Diffa. Pour bien mener ses actions, cette organisation se base sur le principe humanitaire. Monsieur Ali Bako, coordinateur de l'IRC Diffa, explique.
Ce sont des principes qui sont à la base de l'action humanitaire. Ce sont des principes habituellement qu'on connaît, le principe d'humanité, le principe d'indépendance, le principe de neutralité et le principe d'impartialité. Pour nous, on va dire les résultats obtenus avec l'application de ces principes peuvent se résumer entre autres à l'acceptance que nous avions de la part des communautés avec lesquelles nous travaillons, l'acceptance également avec les autorités administratives, qu'elles soient coutumières ou décentralisé, mais également l'acceptance avec tous les acteurs qui sont impliqués dans le cas des conflits, mais aussi une confiance avec les différents bailleurs qui assurent le financement de nos projets.
Ce principe se manifeste dans chaque action entreprise. Le respect de culture locale est une priorité et l'inclusion est au cœur de leur approche. Où chaque individu est traité avec dignité et équité, comme en témoigne un bénéficiaire du village de Digargo, M. Aboubakar Douna Yerima.
On a eu des formations dans les villages avec tous les villageois et sans distinction d'ethnie et de race ni religion. Oui, ils respectent vraiment nos principes du village. J'ai fait partie aussi du comité du village de l'IRC. L'IRC nous a aussi fait espace de bien-être et d'apprentissage pour les enfants. Il y a pas mal de choses, vraiment.
À Diffa, une région où les défis sont nombreux, l'espoir prend forme grâce à ce projet humanitaire qui incarne non seulement les valeurs essentielles de l'humanité, mais représente également un exemple inspirant de collaboration et d'engagement envers les communautés les plus vulnérables.
Ici prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes avec les journaux en langue nationale. À partir de 18h15, interviendra le forum de Studio Kalangu sur le thème « L'univers artistique nigérien et intelligence artificielle, quel impact ?» C'est un forum présenté par Rabia Mekano. Et n'oubliez pas, réécoutez les journaux et les magazines du Studio Kalangu. Appelez le 325 gratuitement jusqu'au 5e appel pour 15 francs CFA par appel via la puce RTL. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54.